Vous êtes sur RTL. Oh, sur RTL.
Oui. Merci Christelle, mais je m'interroge si les dieux ne se jouent pas de nous. Parce qu'au moment où on ne peut pas aller skier, il n'y a jamais eu tant de neige en décembre.
Y a de la
souvent
fraîche.
À Noël, il n'y en avait pas. Vrai. Et souvenez-vous, au printemps, au moment du confinement, on ne pouvait pas sortir dans les parcs ou aller sur les plages et il n'a jamais fait aussi beau. Donc je me demande s'il n'y a pas un rapport de cause à effet entre les deux.
Les éléments sont contre
les
nous,
éléments.
Pascal.
Exactement. Valérie, donc, qui est infirmière. Merci, bon week-end Christelle et rendez-vous lundi. Et Valérie est avec nous qui habite Valenciennes. Valérie, bonjour. Qu'attendez-vous, rebonjour, pour vous faire vacciner?
Écoutez, c'est très clair. J'attends premièrement de connaître les effets secondaires éventuels de ce vaccin. Pour l'instant, on ne les connaît pas. Et j'aimerais au moins avoir un peu plus d'infos sur l'immunité de ce vaccin, sur la durée d'immunité. Est-ce que ça va être un vaccin qu'il va falloir refaire comme celui de la grippe chaque année, ou est-ce que ça va protéger que quelques mois? Voilà, j'aimerais avoir un peu plus de certitude, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ça. Je suis pas anti-vaccin, mais c'est quand même une première d'avoir un vaccin aussi rapide. Et j'avoue que oui, si certains le font avant moi, c'est très bien. Moi, je crois que ce que je vois, c'est très clair.
Je rappelle que vous êtes infirmière. Mais vous avez écouté Alain Fischer, peut-être, vous l'avez peut-être découvert, qui est donc Monsieur Vaccin. Et moi, je suis comme vous, j'ai écouté Alain Fischer hier. Et que dit-il? Il dit, il n'y a aucune communication scientifique. Il n'y a que de la communication des laboratoires. Il dit l'efficacité, on ne sait pas si ça va au-delà de 2 et 3 mois. Il dit que sur les personnes fragiles, il ne sait pas non plus si c'est efficace. Et il termine en disant que le vaccin, on ne sait pas s'il protège simultanément et l'infection et la transmission. Ben moi, quand j'ai écouté Monsieur Vaccin, j'étais un petit peu prudent. Je vais le dire comme Valérie.
Voilà pourquoi je vais pas forcément me faire injecter quelque chose qui me donnera pas de garantie. Moi, le vaccin de la grippe, je fais chaque année. Parce qu'effectivement, chaque année, j'avoue, j'ai fait une grippe dont je me souviendrai toute ma vie, qui m'a mis au tapis. J'ai cru que j'allais vraiment mourir. J'ai jamais été dans un état pareil. Donc, depuis, je fais le vaccin. Ça fait 20 ans que je le fais chaque année. Celui-ci, on le connaît. La fiabilité, elle est très très bonne. Les effets secondaires, je les connais. Ça, d'accord. Maintenant,
il n'y a pas d'effets secondaires sur le vaccin de la grippe?
Vous savez, on a toujours un petit peu de courbature, peut-être un petit fébricule, enfin des petites choses, mais ça dure 24 heures, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça, c'est, on sait, on connaît, c'est pas inquiétant, on connaît ça. Mais celui-ci, moi, il y a trop de questions. J'ai pas la réponse.
Rapidement, en plus, les réponses, ces réponses-là.
Justement, c'est pour ça que je vais laisser les gens. Allez-y, faites.
Tout le monde est comme vous, personne n'est vacciné.
Je sais, mais parce que tout le monde pense. En fait, je m'aperçois, dans le personnel, tout le monde disait « vivement que le vaccin arrive ». Quand la première vague est arrivée, on a eu très très peur. Cela dit, on n'est toujours pas rassuré, mais la première vague a été quelque chose. La deuxième vague, pour nous, a été la plus terrible. Franchement, par rapport à la première, on ne s'attendait pas à un tel rebond. Alors autant les gens me disaient « oui, dès que le vaccin arrive ». Mais en fait, maintenant qu'il est là, et quand on en parle, tout le monde me dit « oui, mais là, du coup, je ne suis pas sûre ».
La communication hier soir n'était pas faite pour rassurer, disons-le.
Non.
Parce que entre Jean Castex, qui effectivement proposait de vacciner dès le 15 janvier, en tout cas dès les premiers jours de janvier, et je le rappelle, Monsieur Vaccin, Alain Fischer, qui était le pied sur le frein, c'est vrai qu'il y avait une nouvelle fois d'ailleurs, il y avait une communication qui n'était pas claire, en tout cas qui avait une forme d'ambiguïté. Et tout ce que vous avez dit, je l'ai ressenti au millimètre, Valérie. J'ai pensé exactement la même chose que vous en écoutant Fischer hier.
Comme depuis le début, en fait, ça va être comme depuis le début de cette période Covid où les informations se sont contredites, il y a eu des informations complètement contradictoires en permanence. Je pense que là, ça va être encore le cas. Maintenant, si c'est le seul moyen de nous sortir de là, oui, d'accord, mais sincèrement, moi, je ne mettrai pas, entre guillemets, ma vie en danger sans certitude. Alors, c'est un peu facile, on parle de déjà vacciner les personnes en EHPAD. Mon Dieu, les pauvres.
Mais non, c'est pas certain ça, puisque précisément Alain Fischer disait hier, je ne sais pas comment ce sera efficace auprès des personnes fragiles. Mais on va marquer une première pause, si vous le voulez bien, et on va continuer cette discussion avec Valérie, mais aussi avec d'autres auditeurs, c'est un des sujets du jour. Si sa table est bien raisonnable, vous pourrez nous appeler. 200 millions d'euros, est-ce que vous avez envie de les gagner? Est-ce que vous allez jouer? Ah, vous avez envie de jouer, de gagner 200 millions d'euros, Valérie? C'est vrai, vous avez... Est-ce que vous pouvez nous donner vos numéros? Parce que comme ça, je vais les noter et les jouer en parallèle de telle sorte que vous ne gagnez pas tout seul.
Alors là, Pascal, ne rêvez pas. Ah bon. C'est
bon.
Les miens.
Bon, bah écoutez, c'est
vous. Je vous donnerai 1 million d'euros si je gagne 200
non.
millions.
Non. Ah, c'est peut-être mieux qu'un pull de Noël. Parce que si vous gagnez 200 millions d'euros, vous me donnez 1 million d'euros?
Mais oui, Pascal. Oui, non, mais notez-le. Notez sur votre tablette.
Attendez, si tout le monde fait ça, c'est bien quand même.
Ah je vous les donnerai.
Eh ben c'est gentil. 13h08, restez avec nous. Greg, vous avez joué, vous, à l'Euromillion? Ça va faire réagir nos auditeurs?
Non, pas encore, mais je vais courir. Vous me donnerez vos numéros, vous?
Non, je les donne à personne.
Dommage.
C'est une combinaison secrète.
Et comme Valérie, si toutefois vous gagnez 200 millions, vous me donneriez 1 million?
Je vous donne 199. Ah, je n'en garde qu'un pour moi. À tout de suite.
C'est enregistré.
Les auditeurs ont la parole. Pascal Praud sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud.
Et avec Laurent Tessier, que
bonjour,
je salue
Pascal.
En ce vendredi.
Bonjour à tous. Il faut que je joue aussi à l'Euromillion.
On va tous jouer à l'Euromillion.
On se donne rendez-vous lundi alors?
Et évidemment, je vous dis tout à l'heure, moi, je pense qu'il ne faut pas jouer parce que si vous gagnez, c'est une déflagration.
Ah bon?
Parce qu'il faut continuer à travailler, vous êtes bien ici.
On serait bien content d'avoir 200 millions d'euros sur le compte en banque quand même.
Non, mais vous avez raison, ne jouez pas. Hein.
Oui, voilà.
Mais
excellente idée.
On a la chance de faire un métier qui nous plaît.
C'est beau. Il manque.
Alors effectivement, les gens qui n'ont pas cette chance, je comprends qu'ils le veulent changer de vie. Mais vous changeriez de vie si vous gagniez 200 millions d'euros?
J'en fais profiter tous mes proches. Et
bien sûr, mais il y a un plaisir. C'est un métier, c'est vrai, on a beaucoup de plaisir à le faire.
Et en tout cas, c'est un débat. Autre débat qui vous anime sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Mmh. Le président élu américain Joe Biden et les anciens présidents Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton sont prêts à se faire vacciner publiquement pour encourager leurs concitoyens à en faire de même. Alors en France, est-ce que les politiciens, les membres du gouvernement doivent-ils faire la même chose? Eh bien l'exemple vient d'en haut, écrit Yves, hein, c'est tout à fait normal. Une évidence pour Thierry, un tel geste serait un grand coup de pouce pour inciter à la vaccination. Personnellement, je vais attendre. Sans hésiter, je me ferai vacciner, écrit Gabriel. Dès que ce sera mon tour, évidemment, pas besoin des politiques, c'est du bon sens. Et mine de rien, on n'est pas à plaindre, lance Georges, vaccin gratuit pour tous. Alors profitons-en, j'en ai marre des confinements et des couvre-feux.
C'est drôle quand même de poser cette question, je ne sais pas si elle est tout à fait digne. Est-ce que ceux qui nous gouvernent doivent se faire vacciner? Est-ce que c'est une injonction que nous pouvons réclamer, Greg Cananini? Et je vais poser la question à Nicolas, qui est aide-soignant et qui habite au Maroc, Nicolas?
Oui, bonjour Pascal, oui, toujours
bonjour,
au Maroc.
Bonjour Nicolas, est-ce que vous pensez que c'est une demande qui peut être légitime?
Oui, je pense que le gouvernement se doit de montrer l'exemple. Donc c'est normal qu'il se fasse vacciner. Après, que ça soit fait devant les caméras, je suis pas forcément certain. Et surtout, je pense pas que ça va changer grand-chose, à vrai dire.
C'est-à-dire?
Parce que tous les gens... on va dire, il y a une grande majorité de gens quand même qui vont faire confiance à leurs médecins, qui auront vu les publications quand elles seront là, parce qu'on les attend, les publications, c'est vrai. Les publications scientifiques, je parle, par rapport aux résultats des vaccins. Et après, il y a toujours les gens qui sont farouchement contre les vaccins, et je pense pas que ça soit ça qui va les faire changer d'avis, tout simplement.
Non, mais après, ce que je trouve surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément contre les vaccins, c'était le cas de Valérie il y a une seconde, et puis qui sont dans cette période un peu troublée, alors que d'habitude, Valérie, elle racontait qu'elle se fait vacciner contre la grippe chaque année.
Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre le discours des politiques et le discours des scientifiques. Mais bon, ça depuis le début de la crise. C'est-à-dire que là, Jean Castex avance une date, la date du 15 janvier, si je me trompe pas.
Oui.
Tout en sachant, et donc l'autre monsieur dont je ne me rappelle plus le nom,
Alain
a dit
Fischer.
Qu'effectivement, il faut être prudent parce qu'il faut attendre les résultats, c'est-à-dire les publications scientifiques, pas juste de la publicité des laboratoires, mais vraiment les publications pour voir les résultats. Et je pense que c'est juste à partir de ce moment où il y aura vraiment les publications et vraiment les résultats qu'on pourra vraiment vacciner. Mais c'est vrai que les politiques s'engagent un peu trop dans les dates. Ça, malheureusement... Bon.
La personnalité d'Alain Fischer, il faut la rappeler, c'est un professeur d'immunologie de très haut niveau. Hein, tout, oui. Tous ceux qui le connaissent et qui le côtoient depuis de nombreuses années, c'est un homme qui a 71 ans, t'es vraiment dans le top de l'immunologie et il sait précisément de quoi il parle. Et c'est parce que précisément il sait de quoi il parle que ce qu'il a dit hier et son discours extrêmement prudent, moi qui m'a frappé hein, d'ailleurs,
exactement.
Parce qu'il était quand même à côté de Jean Castex, ce discours ultra prudent, bah, forcément, a éveillé, non pas des doutes d'ailleurs, mais peut-être un sentiment de doute, un sentiment d'ambiguïté.
Et c'est ça qui est, que moi j'arrive pas à comprendre.
De prudence, plus exactement. Pas d'ambiguïté ni de doute, de prudence, ce qui est différent. Voilà, le mot exact est celui-là.
Mais c'est ça que doit être le discours d'un scientifique. La prudence, et justement, c'est un truc que la réflexion que je me faisais, c'est que, vous voyez, par exemple, la chloroquine. Professeur Raoult a sorti une étude sur 12 personnes. Tout le monde y a cru, tout le monde lui a fait confiance. Là, il s'agit des milliers de scientifiques qui ont testé sur des dizaines de milliers de personnes. Et là, on n'a pas confiance.
Ah, c'est vrai, vous avez raison. C'est très intelligent ce que vous dites, Nicolas. Bah, c'est vrai, c'est très intelligent ce que vous venez de dire. Parce qu'effectivement, Raoult, tout le monde était prêt à plonger. Et en fait, alors, quand vous dites, vous
ne
comprenez pas.
Parce qu'il était sûr de lui.
Mais non, mais quand vous dites, vous ne comprenez pas, il y a une raison. C'est qu'il y a une défiance aujourd'hui sur le message officiel. C'est ça la vérité, c'est-à-dire que le message du vaccin, c'est le message officiel du gouvernement. Et il y a défiance, et on préfère croire du professeur Raoult.
Exactement, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut un petit peu plus... alors ce débat-là, le replacer au niveau vraiment scientifique, et la science prend du temps, la science ne se fait pas sur 12 patients, se fait sur des milliers, et il faut attendre les résultats. Et c'est vrai que moi, dès qu'il y aura des résultats, je me ferai vacciner. Tant qu'il n'y a pas de résultats publiés officiellement dans une revue scientifique, je ne me ferai pas vacciner. Et je pense que de toute façon, il n'y a personne qui va se faire vacciner avant la publication des résultats. Hein. C'est sûr.
Bah écoutez, ça va être l'objet de notre discussion jusqu'à 14h30. Merci Paul. Merci pardon Nicolas. Paul est là justement et Paul c'est un anti-vaccin donc on va le prendre juste après la publicité. À 13h30 aujourd'hui, donc il y aura la chanson de Noël et Monsieur Cadeau. Monsieur Cadeau, c'est Greg Caranoni. Est-ce qu'on peut savoir déjà le cadeau que vous allez offrir ?
Non.
Ah, c'est agréable, c'est gay, on vous parle moi gentiment et vous
c'est
répondez.
C'est vrai, non mais c'était encore un super cadeau. Alors je vous entends déjà d'ici dire, mais ce n'est pas le moment, etc. Mais...
C'est pas le moment ?
Oui, vous direz que le cadeau n'est pas approprié en cette période.
Un slip de bain ?
Non. Vous n'êtes pas loin.
Je veux dire,
vous n'êtes pas loin, c'est
un slip de bain, c'est sympa. Ouais, c'est un truc qu'on offre assez peu à nous.
C'est vrai, ben voilà.
Non, un slip de bain. 13h17, il y aura une petite chanson.
Bien sûr, choisie par notre auditrice aujourd'hui.
Ah, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
On est avec Paul dans une seconde, mais on a posé la question à Jean Castex. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, vous vous feriez vacciner ? Et curieusement, il a commencé par répondre, c'est une question piège. Écoutez.
D'abord, là où vous me croyez sur parole, je ne figure pas dans les publics prioritaires déterminés par la HAS. Enfin, je ne le crois pas. Bon. Et donc, voyez bien, le premier inconvénient, c'est que si je suivais votre... recommandations, d'aucuns pourraient considérer que c'est un passe-droit. Et c'est pas dans les habitudes de la maison. Mais je pense pas que ce soit ce que vous me suggériez. C'est plutôt sur le terrain de l'exemplarité au sens effet d'entraînement. Je vous avoue que je ne me suis pas posé la question en ces termes.
Il ne s'est pas posé la question de savoir s'il voulait se faire vacciner. Il est curieux, notre Premier ministre, parce qu'en gros, quand même, tous les Français se sont posé la question « Est-ce que je me ferai vacciner ?» Donc sa réponse, elle m'a un peu surpris. Mais Paul est avec nous. Bonjour Paul.
Bonjour Pascal.
Vous êtes chef d'entreprise.
Oui, exact.
Bon. Est-ce que vous ferez vacciner ?
Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Pas du tout, mais pourquoi pas du tout ? D'ailleurs, on ne peut pas être vacciné un peu. On se fait vacciner totalement ou...
Non, je vais vous dire honnêtement, j'ai déjà reçu le bordereau pour le vaccin gratuit pour la grippe. Hein. Chaque année, je le reçois parce que j'ai 70 ans. Je ne l'ai jamais fait. J'ai de la famille qui travaille dans le milieu médical, qui ont des laboratoires. Et en fin de compte, ils ne sont pas... C'est pas tellement rassurant ce qu'on nous dit là, sur les vaccins. Moi, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'ai subi beaucoup de choses et à chaque fois, j'ai jamais été vacciné. Et en fin de compte, c'est mon immunité, c'est ce qu'on nous a appris au départ, c'est notre corps qui crée notre immunité. Et à l'heure actuelle, on voit qu'on ne nous donne plus la possibilité d'avoir une immunité comme on avait dans l'ancien temps, je me souviens, quand on était petit, hein, à votre époque, comme la mienne, quand on était jeune, on jouait par terre, dans la boue, on mettait les bombes dans la bouche et tout. On n'avait pas tout ce qu'on a maintenant.
Oui, enfin, les gens mouraient à 60 ans.
Oui, ça c'est vrai aussi.
Parce que le paradoxe de nos vies, c'est qu'on n'a jamais aussi bien vécu. On n'a jamais vécu autant longuement. On n'a jamais été aussi bien soigné. C'est la période de l'humanité où, en gros, c'est le plus agréable biologiquement d'être un être humain. Biologiquement, exact. Je parle. Après, bon, c'est toujours plus subjectif. Mais on n'a jamais vécu aussi vieux.
Oui. Non, mais c'est ça le problème. C'est que maintenant, le problème, c'est que on a peur de mourir. On ne veut pas mourir. Le problème, c'est qu'on doit un jour partir.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est inhérent à notre condition humaine d'avoir peur. Voilà.
Mais de toute façon, moi, je pense que plus on a...
Mais vous n'avez pas peur, manifestement, puisque vous ne vous faites pas vacciner. Pourquoi, ben au fond, vous ne vous faites pas vacciner? Parce que vous avez peur du vaccin? Parce que vous pensez que votre immunité est plus forte?
Non, parce que...
Pourquoi
parce que j'ai eu beaucoup de familles qui travaillent dans le milieu médical, et en fin de compte, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ont été vaccinés, et leurs effets secondaires, ça les a carrément...
Donc ça, c'est la vraie raison.
Oui,
vous mentez pas en disant ça, vous voyez, parce que parfois on se ment à soi-même. Vous pourriez avoir peur du vaccin, tout simplement.
Non, pas du tout.
Donc vous ne vous faites pas vacciner parce que vous pensez que le vaccin est plus nocif que le pas de vaccin.
Oui, parce qu'en fin de compte, on vous inocule pour vous immuniser.
Ah, c'est le principe du vaccin.
Ouais, c'est ça. Et c'est là le problème. Bon, et puis il y a des gens qui vont très bien supporter, attention, hein, comme il y a des gens qui ne vont pas supporter du tout. Mais à ce moment-là, vous en avez parlé, je crois, hier à la Terre, il y a les laboratoires qui fabriquent ces vaccins à l'heure actuelle, ils s'amusent à mettre des clauses comme quoi ils ne sont pas responsables s'il se passait quelque chose de néfaste pour les personnes. Et ça, c'est un petit peu inquiétant, quoi. C'est-à-dire, s'il y a des effets secondaires où les personnes risquent de décéder ou quoi que ce soit, eh ben, les laboratoires ne sont pas responsables.
Ben merci Paul. Voilà. Nous sommes avec Hervé. Hervé qui habite dans le Pas-de-Calais. Et Hervé, vous avez quel âge, Hervé?
J'ai 54 ans. Bonjour, monsieur.
Bonjour Hervé. Ouais. Mais vous êtes retraité déjà?
Oui, c'est parce que j'étais à la gendarmerie. On a l'occasion de partir avant.
Ah oui, vous êtes plus jeune que moi et vous êtes retraité. Dites-nous, 54 ans retraité.
Et je conduis des enfants à l'école, des enfants handicapés à l'école. J'ai trouvé une autre activité.
Ah oui, parce que c'est trop jeune quand même pour arrêter toute activité.
Oui, c'est pour ça que je conduis les enfants handicapés à l'école primaire. En tout cas, oui, on m'a contacté parce que moi, je suis pour le vaccin. Il n'y a aucun souci. Je veux me faire vacciner au plus vite pour enfin sortir de cette crise. Je trouve que tout le monde devrait être vacciné. Parce que l'État ne pourra pas non plus subventionner les gens indéfiniment. C'est ça le problème. Donc le vaccin, ce serait la seule solution pour retrouver une vie normale.
Bah, oui, alors même si ce que vous dites là encore, il y a une communication non pas étrange hier, mais Olivier Véran disait hier que ça ne changerait rien précisément dans nos vies de se faire vacciner. C'est ça aussi, je ne l'invente pas, c'est le ministre de la Santé qui a dit de toute façon, même si on est vacciné, faudra garder les masques, faudra garder les gestes barrières, etc. Tu pourrais imaginer que quand tu es vacciné, tu laisses tomber les masques ou les gestes barrières. Eh bien non.
Oui, mais là, ce serait plus une vie, on n'aurait plus une société tout à fait normale. Donc là, le ministre de la Santé, pour moi, bon, il a tort en disant ça. Pour moi, si on est vacciné, normalement, la pandémie serait éradiquée. Donc je pense qu'on pourrait revenir à une vie normale.
Bah, écoutez, c'est pas ce qui a été dit hier, mais de toute façon, il y a un souci, effectivement, de communication, et on le dit très souvent. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très difficile, parce qu'on ne sait pas les effets de la maladie, on ne sait pas tout sur ce vaccin, etc. Donc on va répéter tout ce qu'on dit en permanence. Donc je ne veux pas non plus m'acharner sur le gouvernement et sa difficulté à communiquer, Hervé. Bon, en tout cas, vous irez. Comme un seul homme, j'ai envie de dire.
Ah, mais j'irai tout de suite, oui. Bon. J'y cours. C'est parce que, bon, je faisais beaucoup de concerts, donc j'adorais aller dans les concerts. J'en faisais une quarantaine par an. Donc là, ça me prive de ce plaisir-là.
Ouais, bien
donc,
sûr.
C'est pour ça que j'ai vraiment...
Bon, vous n'avez pas eu le Covid ?
Non, pas du
bon,
tout. Non.
Mais vous avez fait, par exemple, un test d'anticorps pour savoir... Peut-être que vous l'avez eu sans le savoir, si j'ose dire.
Oui, c'est vrai que... Bon.
Dans votre entourage, je ne sais pas quelle est votre situation de famille, si...
Ah, je suis marié, moi j'ai 5 enfants. Donc,
bon, est-ce que parmi les 5, il y en a un qui l'a eu?
Oui, j'ai mon aîné qui l'a eu, il n'habite plus avec moi, mais qui a eu le Covid, oui.
Bon, de manière légère, de manière plus grave peut-être?
Non, Non, bah, comme la plupart des gens, hein, 15 jours en maladie, puis après il a repris son travail.
Ah ouais, quand même 15 jours, donc c'était une petite version assez sérieuse quand même.
Bon, c'est comme une grippe.
Et tout va bien depuis ?
Oui, il a repris son travail, il n'y a aucun souci.
Bon, bah écoutez, alors vous serez sain et vous serez beaucoup, vous, à Noël, peut-être, parce que ça va être un autre sujet tout à l'heure. Combien on sera à table ?
Pour Noël, c'est sûr que moi, là, je suis embêté avec le nombre conseillé de 6. Déjà.
Il va falloir choisir, ce qui n'est jamais facile.
Bah, je vais choisir les enfants, oui. Oui, bah, je vais demander à M. Castex, peut-être. choisir, ou soit sortir mon jeu de fléchettes. Voilà, je ne sais pas.
Bah, merci, Hervé. Merci beaucoup.
À vos souhaits, Pascal.
Je vous en prie.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et entre 14h et 14h30, de quoi parlerons-nous ?
À 3 semaines de Noël, bien vous êtes nombreux à vous interroger pour les fêtes. Combien de personnes faut-il inviter entre les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, un beau casse-tête ? Eh bien, le Premier ministre a donné plus de précisions hier soir.
La plupart de nos voisins européens ont fixé un nombre maximum de convives à réunir pour ces réveillons allant de 6 à 10 personnes, hors enfants selon les pays. Il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de 6 adultes, sans compter les enfants.
Un avis que ne partage pas la psychologue Marie de Henzel, elle était l'invitée ce matin d'Alba Ventura.
Je pense que plutôt que de dire il faudrait être 6, je crois que si le Premier ministre avait pu dire nous faisons confiance aux familles pour qu'elles prennent les mesures qui soient des mesures raisonnables, des mesures de protection, mais chacun s'organise comme il a envie. Il y a dans le discours politique aujourd'hui une infantilisation qui, encore une fois, est un des ingrédients de la dépression qu'ont les Français.
Alors combien serez-vous à table à Noël ? Allez-vous respecter la recommandation du gouvernement ? Comment allez-vous vous organiser ? Vous préférez Noël en visio ou sur l'ordinateur ? Avec nous à 14h, le professeur Gilles Elianan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans les Hauts-de-Seine.
Et jusqu'au 24 décembre à 13h30, tous les jours, nous marquerons un point Noël. Et aujourd'hui, on est avec Evelyne. L'idée, c'est d'entendre un auditeur qui nous parle d'un souvenir de Noël et puis qui propose ensuite, pourquoi pas, une chanson de Noël. Donc je salue Evelyne.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour Evelyne. Bonjour. Donc votre, vous savez, c'est un peu comme dans le film La Bûche, où chaque personnage raconte son souvenir de Noël. Alors c'est magnifique, il y a Claude Riche, oui. Il y a Françoise Fabian, il y a Emmanuel Béart, oui. Avec une musique derrière, je crois que c'est une musique de Michel Legrand. Et c'est un film de Daniel Thompson qui était très réussi. Evelyne, votre souvenir de Noël ?
Mes souvenirs de Noël, j'ai 69 ans, donc il y a longtemps de ça. On vivait dans un tout petit appartement et le sapin était dans la chambre de mes parents. On était 5 enfants et on attendait Noël avec impatience parce que c'était peut-être le seul cadeau qu'on avait dans l'année. Hein. Maintenant, les enfants, ils en ont toute l'année, donc il n'y a plus vraiment de grandes surprises. Alors qu'à cette période-là, maman nous mettait 2-3 côtes de chocolat dans nos chaussons, puisqu'on se précipitait de mettre nos chaussons au pied de la cheminée. Et on avait le droit à une orange ou une clémentine. Pour nous, c'était extraordinaire parce que c'était des fruits exotiques souvent. Et non, vraiment, il y avait une magie de Noël qui a plus du tout. Et puis, en cette période de pandémie, je vous assure que ce Noël est une tristesse. Non, franchement, j'ai des souvenirs magnifiques de Noël. Je suis contente
vous
que
étiez
mes
où,
enfants
Evelyne
continuent. J'habitais à Nières-sur-Seine. J'habite dans un petit HLM. Hein. On habitait en
et donc
HLM,
ça, c'était dans les années 50
Les années, entre 50 et 60. Hein, j'avais en 58, j'avais 8 ans. Enfin, voilà, mon premier vélo, ma première poupée, mon premier landau. Mais c'était magique, quoi. Alors, le matin, bien sûr, mes parents dormaient encore et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On se lève et tout. On rentrait doucement dans la chambre de mes parents. C'était magique. Vraiment, il n'y a plus cette magie.
C'est-à-dire qu'on n'est plus des enfants non plus. Et je pense que tout homme de 60 ans ou 65 ans ou plus...
Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas la télévision. Alors que maintenant, non-stop, 24 heures sur 24, c'est des publicités de jouets de Noël à la télé. Les enfants n'ont plus cet émerveillement que nous, on pouvait avoir.
qu'on avait, c'était presque...
Vous croyez que les enfants de 5 ans ne s'émerveillent pas? Vous ne pensez pas que c'est intemporel?
Non, moi je vous assure, six petits-enfants...
ils sont blasés?
Oh, blasés, complètement.
Mais quel âge ils ont?
Alors, donc, j'ai 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis après...
Et à 3 ans, il est blasé?
Oh...
Non, vous me faites peur. Bon, la chanson, Evelyne, la chanson que vous avez choisie. Parce que c'est vous qui allez la chanter. D'habitude, on la propose. Là, vous allez chanter à vous-même.
Absolument. Oh, quand j'entends sonner Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, oh mon beau rêve blanc.
Magnifique. Elle est belle en plus, Noël Blanc, c'est magnifique.
Magnifique.
Et puis vous avez une voix, vous allez haut la chercher. Bon, Evelyne, vous faites quoi à Noël?
À Noël, je monte à Paris. Je monte à Paris parce que moi j'habite à Perpignan. Mes enfants sont tous en région parisienne. Je monte à Paris et puis il n'est pas question qu'on reste, qu'on soit trop à table.
Et vous venez, donc, vous arrivez quand?
J'arrive le 23 décembre et je repartirai le lundi 28. Je reste 5 jours là-bas.
Et là, vous allez chez un de vos enfants?
Oui, chez ma fille aînée. Qui
donc vous dormez
Frère et sœur, oui, je dors chez ma fille.
Donc il y a
je
de la place pour vous accueillir?
Oui, ils ont une grande maison, donc il n'y a pas de problème. Mais j'aurai tous mes petits-enfants avec moi. Donc on sera plus de 10 à table. Je suis désolée. Voilà.
Non, mais attendez, vous serez 10 enfants compris, parce qu'il a dit 6 sans enfants, les enfants.
Oui, alors, ma fille aînée, sont 4, avec mes petites filles qui ont 21 et 16 ans. Après, il y a mon fils qui vient avec sa femme et 3 enfants, donc qui ont 14 ans, 7 ans et 6 ans. Et puis ma fille qui vient d'Allemagne, qui a 2 enfants de 5 ans.
Et tout le monde, il n'y a pas de famille recomposée, tout le monde est ensemble chez vous?
Tout le monde est ensemble.
Ah, non.
Tout le monde est ensemble.
Statistiquement,
ouais.
Hein, c'est bien quand même, des enfants de 21 ans, bravo.
Oui.
Des petits-enfants de 21 ans, donc c'est des couples qui durent dans votre famille.
Oui, tout à fait. Oui, moi, ma fille, ça fait 20 ans de mariage, oui, tout à fait.
Bon, je suis très intrusif, hein, Evelyne, je pose plein de questions. Vous avez le droit de dire, mais ça ne vous regarde pas, hein. Vous avez le droit.
Ah non, mais il n'y a aucun problème.
Bon, alors le cadeau de Greg Caranoni.
Evelyne, vous parliez des années 50 et 60.
Oui.
Eh bien, je vous offre aujourd'hui des lunettes de soleil de la marque Vinyl Factory. C'est une marque vintage et rock'n'roll. Et du coup, vous allez pouvoir choisir notamment ces lunettes un peu papillon, vous savez.
Ah, j'adore.
Ben voilà.
Attendez, vous savez que quand j'ai fait l'opticien, parce que je demande, vous n'avez pas encore des lunettes un peu à Hollywood, comme Hollywood? Oui, j'adore les lunettes comme ça.
Eh bien, vous allez les recevoir bientôt.
Super. C'est génial. Merci, bonne chance.
C'est Monsieur Cadeau.
Eh ben, c'est merveilleux. Merci
Evelyne, vous nous avez enchantés.
Merci Pascal et bonne continuité. En tout cas, je vous souhaite une bonne fête.
Eh bien, alors, vous êtes adorable. C'est très gentil. Et puis alors, Noël Blanc, je peux vous dire que la neige arrive, hein, dans les stations fermées.
Oui. Oh ben là, nous, le Canigou, il est plein de neige.
Qu'est-ce que vous appelez le Canigou?
Le Canigou, c'est la montagne des Pyrénées.
Ah oui, le Canigou, bien sûr.
Le Canigou, il est plein de neige, là. Ça tombe, en plus.
Parce que de Perpignan, vous voyez évidemment la montagne.
Ah oui, de mon appartement, je vois la montagne.
Et la montagne s'appelle le Canigou.
Il s'appelle le Canigou. C'est la montagne sacrée chez nous, hein. Comme le Mont Blanc dans les Alpes.
Je vous embrasse, Céline. La pub à tout de suite.
Je vous embrasse, Pascal. Au revoir.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est drôle parce que vous ne parlez que du vaccin. On pourrait parler aussi de six à table. Nous sommes avec Foued, qui est enseignant à Strasbourg. Bonjour.
Bonjour.
On pourrait également parler d'ailleurs de la solitude qui touche aujourd'hui en France 7 millions de personnes, 14% des Français. On était à 9% en 2010. Un isolement d'ailleurs qui concerne d'abord les personnes âgées et les catégories sociales les moins aisées. Sur ce thème, il vous reste encore une vingtaine de minutes pour appeler, Foued.
Moi, je veux aussi vous parler du vaccin.
Mais je sais, Allons-y.
Oui, écoutez, ça, pour moi, ça s'inscrit finalement dans une logique de défiance et de contestation un peu irréfléchie. Parce que moi, j'ai coutume de dire que si Louis Pasteur était né à l'époque des réseaux sociaux, au lieu d'être un héros, ça serait l'une des personnes les plus insultées et critiquées en France. Il n'y aurait pas d'école, pas de rue à son nom. C'est-à-dire qu'on on est dans un vrai basculement où, pour moi, normalement, quelqu'un qui trouve un vaccin, c'est quelque part un héros. Et en fait, ça ne suscite que de la suspicion. C'est ça, moi, qui me...
Mais il y a quand même quelques raisons. Vous êtes marrant, Foued. Il y a eu l'affaire du Mediator qui a quand même laissé quelques séquelles. C'était un médicament qui était, qui était dans le public et puis qui a laissé quand même pas mal de gens sur le flanc avec un procès qui a suivi. Là, de la même manière, vous dites suspicion, c'est pas moi qui est suspect, et j'ai dit tout à l'heure, ou en tout cas qui entretient la suspicion, c'est Alain Fischer, monsieur vaccin, qui lui-même, et je vais le redire, dit hier que la communication scientifique n'existe pas, que l'efficacité ne passe pas 2 ou 3 mois pour le moment, qu'on ne sait pas comment ça agit sur les personnes fragiles, et on ne sait pas si simultanément tu es protégé de l'infection et de la transmission. Il est professeur d'immunologie et il est monsieur vaccin. C'est lui qui le dit hier. Donc évidemment que tu marques un peu de prudence, tu vas pas aller te faire vacciner. En plus, on t'explique que généralement pour faire un vaccin, faut des années. Il y a encore un mois, on nous expliquait que les premiers vaccins ne seraient pas avant l'automne 2021. Et aujourd'hui, Jean Castex arrive, dit dès le 15 janvier, on commence à vacciner. Moi je suis un peu prudent, je suis pas ni complotiste ni anti-vaccin, mais je suis simplement un poil prudent. Et en parallèle, je suis comme Valérie, je me fais vacciner contre la grippe depuis des années. Donc, je n'ai pas de soucis, moi, avec les vaccins. Mais j'y vais pas comme ça.
Oui. Vous savez, on est quand même dans une époque où j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans un excès de prudence plutôt que de laisser des choses... Alors, j'imagine que si les personnes autorisent le vaccin, c'est qu'ils ont quand même un certain nombre de certitudes. Pas forcément sur leur efficacité, parce que c'est plus sur l'efficacité qu'il y a une suspicion qui est manifestée par le professeur hier. C'est sur l'innocuité. À la rigueur, si on vous dit on vous inocule quelque chose, mais on a peut-être des doutes sur la durée de l'efficacité, c'est quand même très différent de faire croire qu'il y aura des effets secondaires qui seront... Vous savez, on est vraiment dans une époque du principe de précaution. On ne donne pas les choses à la légère. Et c'est vrai que vous citez le Mediator, c'est celui qu'on cite tout le temps. Mais sur les 20 dernières années, on va nous citer combien de médicaments qui ont fait des ravages par rapport à tous les médicaments, tous les vaccins qui ont été autorisés. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus prendre la partie pour le tout et se focaliser que sur les trains qui arrivent pas à l'heure, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas un argument.
Ce que vous dites s'entend. C'est un excellent argument. Vous avez parfaitement raison. Mais j'entends... moi, je vous assure, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est vraiment Alain Fischer hier. Ça fait 3 fois que je le répète, mais je maintiens que Monsieur Vaccin, hier, lui-même, a montré sa prudence. Eh bien, je suis sur la ligne de Monsieur Vaccin. Ni plus, ni moins.
Oui, mais socialement, vous vous rendez bien compte qu'on va au-delà de la prudence, qu'il y a vraiment un rejet. Moi, je vais vous dire honnêtement, je pense que si j'étais un décideur et si j'avais voulu vraiment que les gens se fassent vacciner, j'aurais dit, il n'y a que 577 vaccins disponibles en France, on va vacciner en priorité tous les députés. Je peux vous assurer que là, tout le monde aurait voulu se faire vacciner et la contestation serait focalisée sur le fait qu'on réserve ça à une élite.
C'est marrant ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est le syndrome Parmentier. Vous savez, pour faire manger des pommes de terre, paraît-il, au XVIIIe siècle, on avait mis des gardes autour du champ de pommes de terre. Comme ça, les paysans ou les gens qui étaient dans des conditions défavorisées, voyant que les nobles ou les personnes favorisées entouraient ce champ de pommes de terre, imaginaient que c'était absolument formidable. Donc c'est le même syndrome.
Oui, parce que finalement, dès le XVIIIe siècle, on connaissait bien la nature humaine, quoi.
Il suffit de lire un peu les moralistes de ce temps-là. Écoutez, merci Foued, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël ?
À Noël, je ne fais pas vraiment Noël.
Ah, bon, voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci.
C'est pour moi.
Bon, merci beaucoup Foued. Que dites-vous, Grégory ? Vous m'avez dit c'est génial.
Non, je ne connaissais pas cette histoire de pommes de terre protégées.
Vous ne connaissez pas vous savez que Parmentier a fait venir la pomme de terre.
Oui.
D'où son nom à un célèbre hachis, le hachis Parmentier. Ce qui est vrai, hein. Ça, là, je blague. Parfois, je blague, mais là, je blague pas du tout. Et c'est lui qui a fait venir, alors, je crois que c'est au 18e siècle qu'on peut vérifier la pomme de terre en France. Et pour, précisément, que le peuple s'intéresse à cela, il avait fait garder cette pomme de terre dans les châteaux ou dans les lieux les plus favorisés, comme je le disais tout de suite.
Mais j'ai trouvé cette histoire extraordinaire.
Les bonnes histoires de tonton Pascal.
Merci pour cette histoire, tonton.
Bon, je vois les images de neige, je suis fasciné. Ah. Il n'y a jamais eu tant de neige et on ne peut pas en profiter. Ça, c'est magnifique. 13h47, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Antoine Parmentier, qui était né le 12 août 1737 et qui est mort en 1813, précurseur de la chimie alimentaire et de l'agrobiologie. Il est surtout connu pour son action de promotion en faveur de la consommation de la pomme de terre dans l'alimentation humaine, monsieur Parmentier. Alors, Marilyn, bah, si on gagne 200 millions d'euros, on pourra moins manger peut-être de pommes de terre. On pourra manger autre chose. Bonjour Marilyn.
Bonjour Pascal.
Vous habitez dans le Pas-de-Calais. Vous allez jouer ?
Alors, je vais jouer, mais tenez-vous bien, si je gagne, Pascal, je donne tout. Je garde rien. Je donne tout à la recherche médicale.
Bah écoutez, je ne sais quoi dire. Mais pourquoi ? Pourquoi vous gardez rien pour vous ? Parce que vous pouvez donner un peu.
Non, parce que moi je
vous êtes riche déjà ?
Non, pas du tout. Puis je veux pas l'être. Je ne serai jamais riche, Pascal. Bah,
peut-être que si vous gagnez. Mais pourquoi vous voulez pas être riche ? Quoi, vous voulez pas ? Vous vivez très bien ?
Je vis comme j'ai choisi, c'est-à-dire bien pour moi, Pascal. J'ai pas de maison.
Vous avez une maison ?
Pas de terrain. Non, je suis en appartement, en location, comme je l'ai été toute ma vie.
Et vous n'avez pas envie d'avoir une maison ?
Non, pas du tout. J'ai envie d'être. Je n'ai pas envie de pouvoir dire c'est à moi.
Ah bon ?
C'est à moi, c'est quelque chose que
Vous pouvez vivre à l'hôtel.
Mais non, pas du tout.
Parce que là, c'est pas à vous. Vous pouvez vivre toute votre vie à l'hôtel, si vous voulez, dans un bel hôtel.
Mais parce que je suis très bien. Maintenant, le donner à ma famille, etc., j'ai pas envie de me disputer avec tout le monde, moi, j'ai pas envie qu'on me déteste.
Pourquoi voulez-vous vous disputer si vous leur donnez de l'argent ?
Non.
Ah, donc vous ne donnez pas non plus à votre famille ?
Non.
Mais vous avez des enfants ?
Mais bien sûr, j'ai mes enfants.
Combien d'enfants ?
J'ai deux enfants.
Et vous êtes content quand vous gagnez 200 millions et que vous n'allez rien leur donner ? Vous allez passer un bon Noël ? Vous n'allez pas être six, là, vous allez être toute seule.
Ça ne les étonnera pas du tout de moi.
Si ma maman gagne 200 millions et qu'elle ne me donne rien, je vais lui dire,
et
maman...
Vous l'admirerez et tout.
Je l'admirerai. Mais vous avez des petits-enfants ?
J'ai des petits-enfants, Pascal. Mais pourquoi toujours vouloir...
Donner un petit peu, aider.
Mais non.
Et à qui vous allez donner, alors ?
Mais je donnerai à la recherche médicale. D'accord. Écoutez, j'ai été témoin de quelqu'un qui est décédé de la maladie de Charcot. Quand je vois qu'aujourd'hui, des gens peuvent mourir de cette maladie ou d'autres, où on vous répond, on ne peut rien faire.
La maladie de Charcot, c'est une horreur. Mais Marilyn, par exemple, quel âge auront vos petits-enfants ?
Alors, mes petits-enfants, ça va de 25 ans à 5 ans.
Bon, ils sont au commencement de la vie professionnelle. Moi, je vais prendre des exemples. Par exemple, si vous avez un petit-fils ou une petite-fille qui est dans la restauration, vous lui dites, est-ce que tu as envie que je t'achète un restaurant ?
Non,
c'est un projet professionnel. Ça, c'est pas de l'argent pour aller au soleil et rien faire de sa vie tout le temps. C'est un bon investissement, comme dit l'autre. Vous n'avez pas envie de l'aider ?
Je le ferai pas, je l'aide différemment, je le ferai pas, Pascal.
Vous l'aidez comment ?
C'est moi, ça, je sais que je peux choquer. Mais
non, mais que vous gardiez pas pour vous, pourquoi pas ? Vous leur demandez leur avis, si vous leur dites tu préfères que je donne à la recherche ou que je t'aide professionnellement, que ce soit même un investissement ?
Non, parce que je pense.
Je dois vous souhaiter de gagner de l'argent, parce que je peux vous dire que là, vous allez vraiment vous fâcher avec la famille.
Pourquoi là ? Non. Alors là, je vous assure que
si vous gagnez 200 millions d'euros et que vous leur donnez rien, ça va être chaud le soir de Noël.
Non, tout va
bien se passer.
Non, je vous promets, je vais vous envoyer la preuve. Je vais jouer cet après-midi, je vous enverrai par texto la preuve. Si je gagne, je donne tout, Pascal. Et je vous assure que c'est vrai.
J'en suis sûr même. Pourquoi ce serait pas vrai ? Mais je trouve ça rude.
Ben, je suis rude, mais je n'ai pas... Non, parce que mes petits-enfants, ils seront certainement comme moi et comme beaucoup de membres de ma famille. Mmh. On leur a appris, on leur a inculqué à travailler.
Mais alors pourquoi vous jouez ?
Parce que je ne peux pas donner à la recherche si je ne joue pas et si je ne gagne pas.
Vous jouez pour la recherche.
Mais ouais, oui,
pourquoi, bien sûr.
Je joue pour la recherche, là.
Que vous jouiez pour gagner et pour ne pas donner à vos enfants, ce qui serait un peu pervers.
Mais pas du tout. Non, alors, j'espère que vous ne faites pas ça.
Mais Marie-Lyne, c'est vendredi, on s'amuse un peu. Mais avouez que vous n'êtes pas fréquente quand même. Franchement, c'est pas fréquent des Marie-Lyne.
Les
gens qui nous écoutent, par exemple, ils doivent se dire, ils sont dans leur voiture, ils sont en train de partir en week-end, pourquoi pas, ils doivent se dire, non, Marie-Lyne, c'est une drôle de...
Pascal, je vous répète, aujourd'hui, je suis pas riche, pourquoi ? Mais je serai jamais riche. Parce que moi, je connais des tas de gens qui sont beaucoup plus riches que moi.
C'est vrai que j'ai dit...
Quand j'ai chez eux et qu'ils reçoivent 8 personnes avec un melon, qu'on soit 8 ou qu'on soit 2, excusez-moi, chez moi, ils ont un melon chacun. Je suis très généreuse,
Ah bah je le vois bien. Alors j'ai dit qu'on pouvait partir en week-end, mais effectivement c'est une bêtise puisque Greg Caradoni qui me marque vraiment à l'oreille me dit évidemment on peut pas partir. Bon ben Marie-Lyne, donc c'est quoi vos numéros? Parce que je vais quand même les jouer en parallèle, parce que comme votre argent vous servira uniquement pour le Téléthon et la recherche, j'ai envie de m'occuper de vos enfants. Donc si vous gagnez la même grille, je ferai en sorte de leur donner un petit peu. Donc, vous pouvez me donner vos numéros ou pas ?
Alors, le 11 ?
Le 11 ? Ah oui, on donne le 11 en plus, ça va les donner. Le 11 ! Le 11 ! Père et banque ! Le 11 et puis...
Le 8 !
Le 8 ! Père et rouge !
Le 9 !
Le 9 !
Le 20 !
Le 20 !
Combien on est là ? Combien
ça fait 4 a priori, mais bon. Allez, encore un.
Le 11, je l'ai donné. Le 8, je l'ai donné. Le 20, le 6, je l'ai donné. Le 6.
Bon. Et 36,
le 6, non.
Alors, il y a le 36-37 pour le télé.
Et voilà, 36-37. Voilà. Et je vous promets que je suis très sincère, Pascal. Sincère. Arrête. L'argent, il n'y a pas que ça.
Mais on sait bien qu'il n'y a pas que ça. Je veux dire, on sait bien que la santé, tout ça, je suis à 100% d'accord avec vous. Mais simplement, quand on a cette opportunité, cette chance-là de pouvoir démarrer dans la vie je le répète, j'ai pris l'investissement. Moi, je suis comme vous, je pense qu'il faut travailler. Évidemment que si je gagne 200 millions d'euros au loto, moi, je continue de travailler. Je n'ai pas envie d'être sur un paquebot à rien faire ou à jouer au golf toute la journée. Bon. J'ai envie de faire quelque chose, de faire un projet professionnel. Voilà. Alors après, chacun choisit le projet professionnel.
Mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, ma famille, je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent, ils savent comment je suis.
Ah bah ça, ils savent bien comment vous êtes, ça j'imagine.
Chacun mène sa barque haut, droit et fier. Et puis, à la fin de leur vie, je suis pas tout à fait à la fin de ma vie, mais j'ai bien avancé à 65 ans. J'ai rien à moi, mais Dieu que je suis heureuse.
Bon, écoutez, là, ça c'est l'important.
Voilà.
Je suis d'accord. Vous savez ce que disait Jules Renard ? Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. Mais bon, c'était méchant.
Je vous ai suivi ce matin à la télé.
La télé, c'est la télé, la radio, c'est la radio.
S'ils ne se font pas vacciner, je ne me fais pas vacciner.
Bon. Marie-Lyne, est-ce que vous pouvez nous appeler lundi ?
Oui, vous dire.
Pour nous dire si vous avez gagné ou pas. Et si vous êtes fâché avec toute votre famille.
Ah mais non, il m'adore, ma famille.
Il vous adore, ça j'en suis convaincu, mais appelez-nous quand même.
Ah bah promis. Bon. À lundi, Pascal, bon week-end.
Bon week-end, je vous embrasse, Marie-Lyne, tendrement.
Tous les auditeurs, au revoir.
13h58, c'est magnifique cette émission. Il y a quand même des personnalités. Olivier Bois vient d'arriver, par exemple, dans ce studio, mais c'est des personnalités formidables, les auditeurs ont la parole. Vous imaginiez quelqu'un qui gagne 200 millions d'euros et qui donne 0 francs à tout le monde? Non, ça vous fait pas réagir.
Si, bien sûr, mais je me demandais si Olivier Bois partagerait avec nous.
Je suis désolé.
Bon, le flash de Oliver Wood dans une seconde.
200 millions. 200 millions.
14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
On parle et on est en retard. 14h01. Ça, c'est de la faute d'Olivier Bois, le flash.
Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, est entendue à nouveau aujourd'hui par la juge d'instruction en charge de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin. Alors que lundi vont commencer de nouvelles fouilles dans les Ardennes à des endroits indiqués par Fourniret récemment, où il indique avoir pu enterrer la petite fille disparue en 2003. 10% des Français auraient été touchés par le coronavirus depuis la première vague, c'est l'estimation de l'Institut Pasteur, avec de grandes disparités régionales, moins de 4% par exemple en Bretagne, moins de 7% en Normandie ou dans les Pays de la Loire. En revanche, plus de 20% à Paris et en Île-de-France. Pour éviter une troisième vague, il faudra être prudent pendant les fêtes de fin d'année. C'est en tout cas la recommandation du gouvernement qui souhaite qu'il n'y ait pas plus de 6 personnes à table le soir de Noël et le soir de la Saint-Sylvestre. Les soldes seront décalés au 20 janvier. Les commerçants le demandaient. En effet, demandaient un peu plus de temps pour vendre leur stock au prix habituel avant la période de rabais. Le sport, c'est d'abord l'abandon de Sébastien Simon dans le Vendée Globe sur Arkéa Paprec. Après son accident, les dégâts sont trop importants et en tout cas pas réparables, seul en mer. Fabien Galthié rajeunit la sélection du 15 de France avant le match face à l'Angleterre dimanche. 6 changements et c'est Baptiste Couillou qui sera capitaine. Et puis les handballeuses françaises commencent leur Euro ce soir à 18h15 face au Monténégro. La météo demain, pluvieux en Bretagne et sur les côtes de la Manche. Ce sera globalement nuageux sur la moitié nord et un tout petit peu plus ensoleillé dans le sud. Température 0 à 4 degrés demain matin quasiment partout. 8 degrés à Nice pour la maximale.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et avec Laurent Tessier, puisque nous allons être dans une seconde avec quelqu'un que vous connaissez bien et qui vient régulièrement nous voir, Monsieur Annan, que je salue.
Bonjour.
Vous êtes toujours à Foch?
Toujours à l'hôpital de Garches.
Toujours à l'hôpital de Garches, au service de réanimation, et vous venez nous voir régulièrement.
À 3 semaines de Noël, c'est le casse-tête dans toutes les familles. Combien de personnes faut-il inviter ? Greg Caranoni, pas question de réunir tout le monde cette année quand même, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, non, écoutez la recommandation du Premier ministre Jean Castex.
La plupart de nos voisins européens ont fixé un nombre maximum de convives à réunir pour ces réveillons allant de 6 à 10 personnes, hors enfants selon les pays. Il nous paraît raisonnable de vous recommander une jauge de 6 adultes sans compter les enfants.
Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire...
On n'aurait jamais, franchement jamais imaginé il y a un an qu'un Premier ministre nous dise combien on doit être à table pour les fêtes.
Une recommandation qui fait réagir. Chacun s'interroge sur son organisation pendant les fêtes de fin d'année. Maryse habite Lyon, elle est au micro RTL de Frédéric Perruche.
Nous, ce qu'on va préconiser, c'est de la distanciation et de faire une aération, porter le masque. Et si on peut se faire dépister avant, on fera.
Si on vous dit 6, c'est pas possible?
C'est pas possible. Sinon, il n'y a pas de Noël.
6 adultes à table, sans compter les enfants, un avis que ne partage pas la psychologue Marie de Henzel. Elle était l'invitée ce matin d'Alba Ventura.
Je pense que plutôt que de dire il faudrait être 6, je crois que si le Premier ministre avait pu dire nous faisons confiance aux familles pour qu'elles prennent les mesures qui soient des mesures raisonnables, des mesures de protection, mais chacun s'organise comme il a envie. Il y a dans le discours politique aujourd'hui une infantilisation qui, encore une fois, est un des ingrédients de la dépression qu'ont les Français.
Alors, nous lançons le débat. Question simple sur le papier, mais véritable casse-tête en réalité.
Si c'est à table, est-ce bien raisonnable ?
Combien serez-vous à Noël ? Respecterez-vous la recommandation du gouvernement ? Allez-vous en profiter pour ne pas inviter belle-maman ? Comment allez-vous vous organiser ? Tiens, que proposait déjà le professeur Rémi Salomon chez nos confrères d'info ?
On peut aller chez papy et mamie à Noël, on ne mange pas avec eux. On coupe la bûche de Noël en deux. Papy et mamie mangent dans la cuisine et nous on mange dans la salle à manger.
Mais sinon, le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies a publié une série de recommandations, notamment parler à voix basse, ne pas crier ni chanter lors des réunions familiales. Et si tout ce plan d'attaque vous paraît compliqué, si vous ne voulez pas entendre parler aussi Pascal de Noël en visio devant votre ordinateur, vous pouvez choisir la méthode du médecin Axel Kahn.
Moi j'ai pris une autre décision. La décision, c'est de faire Noël en juin. On va faire une grande réunion de famille parce qu'on s'aime beaucoup. En plus, il y a un avantage, c'est qu'il fait beau.
Hey, la bûche au mois de juin, ça rafraîchit. Avec nous en studio, le professeur Gilles Elianan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine.
Et je le salue bien évidemment et heureux de vous retrouver à ce micro. On dit souvent qu'on est surpris par cette épidémie. On est surpris quand elle repart, on est surpris quand elle s'arrête. Est-ce que vous êtes aujourd'hui un poil surpris de la décélération de la maladie ou de l'épidémie?
D'abord, je crois qu'il faut être très prudent en parlant de décélération. On est peut-être en train de sortir de la deuxième vague, mais il faut rester vigilant. Hein. Ces derniers jours, on a plutôt vu une tendance à la réaugmentation du nombre de cas de contamination. On était plutôt aux alentours de 8000 par jour il y a 4-5 jours. On était hier à 12000 par jour. Donc si ça venait à se confirmer cette mauvaise tendance, ça serait un élément supplémentaire à prendre en compte pour les fêtes à venir. Donc prudence, beaucoup de prudence, et ne pas considérer à tort que la deuxième vague est derrière nous.
Écoutez, j'espérais un message positif, effectivement, mais je vous suis, et nous vous suivons depuis de nombreuses semaines maintenant, et c'est vrai que c'est souvent intéressant de vous écouter, parce que vous vous trompez assez peu, monsieur Hanan, disons-le.
Moi, je me trompe comme chaque être humain.
Oui, mais votre diagnostic est souvent le bon.
On essaie de rester objectif, en fait, ni de chercher à faire peur, ni de chercher à faire du catastrophisme, mais d'être très objectif sur les chiffres. Moi, je voudrais revenir un instant sur les 6 personnes par famille. Il y a plus de 60 millions de foyers. Et donc, il est absolument impensable d'imaginer que l'on puisse standardiser, normer les fêtes, le réveillon de Noël sur 60 millions de foyers. Je crois que ce qui est important, comme cela a été dit ce matin sur cette antenne, franchement, ce qui est important, c'est de faire confiance aux gens. Il faut que chacun ait correctement la bonne information et ensuite qu'il tienne compte de sa situation propre et personnelle qui est très différente de celle de son voisin. Si on est une famille de 10 personnes, on ne va pas couper la famille en deux,
bien sûr. 6. Une pause et vous allez pouvoir dialoguer avec les auditeurs.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Donc nous sommes avec Elisabeth qui va pouvoir échanger avec monsieur Hanan. Bonjour Elisabeth, vous êtes maman au foyer en Moselle. Et ce qui nous intéresse, c'est si vous allez respecter cette mesure de 6 à table.
Eh bien oui, on va respecter la mesure. Bon, pas parce que le Premier ministre nous l'a conseillé, non, ça part, on va dire, plutôt de bon sens de notre part. Je vois, on va aller fêter Noël avec ma maman une semaine avant, parce que comme cette année, elle a préféré aller fêter Noël chez ma sœur, parce qu'on aurait été trop chez nous, et vu qu'on habite dans un petit appartement, on a préféré ne pas prendre de risques pour elle, parce qu'elle est âgée, et en plus, elle a des facteurs de comorbidité.
Bon, est-ce que cette injonction, donc finalement, c'est pas cette injonction qui vous fait être assis, c'est quand vous dites de bon sens, vous aviez pris la décision avant d'entendre le Premier ministre, c'est ça ?
Oui, exactement. Oui, oui. Bon. On n'a pas besoin d'avoir des conseils du Premier ministre. Pour nous, ça semble logique, quoi. Je veux dire, vu la situation actuelle, même si nous, on psychote pas à fond sur ce créneau-là, mais on veut dire, on aime notre maman, donc on veut prendre des précautions pour elle.
Bon, il y a beaucoup de gens, et Marie de Henzel disait ça ce matin chez Alba Avandura, qui parle d'infantilisation, monsieur Hanan. Et ça, c'est un mot qui revient quasiment depuis le mois de mars. Bon, est-ce que vous partagez cette analyse de dire que le gouvernement a infantilisé les Français dans sa communication ?
Je trouve en effet que parfois, on va au-delà de l'information et de la, vous voyez, on va au-delà de l'information et de la pédagogie. On va vers l'injonction ou la tentative de vouloir obliger à faire les choses au lieu de plutôt être dans la pédagogie et dans l'explication. Et effectivement, c'est une tendance qui se répète. On le voit dans la communication des autorités sanitaires et politiques depuis le début de la crise, finalement. Donc oui, je partage.
Et ça revient régulièrement parmi les auditeurs. Merci beaucoup Elisabeth de ce témoignage.
De rien, bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Sonia, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez dans les Côtes d'Armor.
Tout à fait.
Vous serez combien le soir de Noël ?
On sera deux.
Ah bon ?
On sera deux parce que
c'est un choix ou c'est un hasard ?
Ah non, c'est un choix parce que, comme je disais tout à l'heure, avant le standardiste, pour moi, le dernier discours de Macron, c'est anxiogène pour moi. Pour moi, les Français ne sont pas raisonnables et se rassembler tout de suite à 10-15 dans une salle à manger confinée, puisqu'actuellement il fait 3-4 degrés en Côte d'Armor, on va pas être dehors. Au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, on pouvait être dehors. Là, on est au chaud. Donc j'arrive pas à le concevoir. Ça, je peux pas. Et pour moi, les Français ne sont pas raisonnables. Effectivement, mais
vous êtes jeune, par exemple, Sonia. Vous avez 46 ans, vous êtes jeune, vous serez sans doute avec votre compagnon.
Oui, mais j'ai par exemple un voisin de 71 ans qui vient de décéder du Covid. Il ne sait pas où il l'a attrapé. J'ai deux parents qui sont tous les deux à risque, 68 et 70 ans. Si par ma erreur, je leur donnais le Covid, je ne pourrais pas m'en remettre.
Et vous êtes vous-même, vous considérez comme à risque ou
Non, mais je travaille dans le milieu médical. Je suis assistante dentaire, donc je vois quand même beaucoup de personnes dans la journée. Je respecte le confinement. Je vois personne.
Et vous trouvez que vous êtes d'une nature traditionnellement...
Alors, j'étais plutôt d'une nature effectivement un petit peu anxieuse. Mais ce deuxième confinement, je ne l'ai pas accepté parce que j'avais respecté toutes les règles. Et là, qu'on libère, pour moi, le monde le 24 et le 31, pour moi, le professeur dira peut-être, il ira peut-être dans un sens, je ne sais pas. Mais pour moi, on part début janvier à un troisième confinement et à une troisième vague. Je le ressens comme ça.
Monsieur Anna nous répond.
Discours.
Oui, il y a un risque collectif, indiscutablement, que notre société a fait le choix de prendre, qui est de permettre cette respiration au moment du réveillon de Noël et de la nouvelle année, alors même que le virus circule et que la crise sanitaire n'est pas complètement maîtrisée. Et donc, oui, il y a un risque potentiel de voir se réactiver la propagation du virus début janvier ou à la mi-janvier. Mais ce risque, il nous appartient collectivement de le minimiser, de le réduire le plus possible. Et cela en gardant beaucoup de bon sens, c'est-à-dire qu'effectivement, en évitant de s'exposer quand on est à risque, en évitant d'exposer les autres, en particulier les personnes à risque quand on n'est soi-même pas à risque. Et par exemple, si on doit et si l'on veut se rendre à un repas familial, moi, je ne trouverais ça ni choquant ni surprenant, et même je l'encouragerais de se faire tester avant. Et bien évidemment, si on a des symptômes de la fièvre, des courbatures, on décline l'invitation et on n'y va pas.
Mais évidemment, ça c'est une question de bon sens. Merci beaucoup, Sonia. C'est vrai que le test, si est-ce que on peut imaginer un test ultra rapide? Quand je dis ultra rapide, c'est en moins de 10 minutes.
En tout cas, là, on a le test possiblement dans la journée ou même dans la demi-journée. Oui. Donc c'est suffisant.
C'est déjà, oui. Alors, je pensais au restaurant, pour tout vous dire. C'est-à-dire que si on pouvait, avant d'entrer dans un restaurant, se faire tester dans une situation idéale et savoir immédiatement si on est porteur ou pas, ça permettrait sans doute de rouvrir immédiatement les restaurants, puisque n'entreraient que ceux qui sont négatifs.
Probablement. Hein, probablement aussi, on peut imaginer une ouverture des restaurants sur la base de la réservation. C'est-à-dire qu'on réserverait sa table en avance et en utilisant l'application Tous Anti-Covid et les QR codes, on pourrait assurer une bonne traçabilité et probablement une réouverture avec beaucoup de sécurité des restaurants.
La pub, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous sommes toujours avec le professeur Annan et le professeur Annan nous dit qu'il faut quand même laisser les familles décider avec une forme de bon sens et ne pas les infantiliser avec des injonctions trop précises. Catherine, vous allez être, me semble-t-il, en dehors de la jauge le 24 décembre.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour.
Merci à votre invité d'avoir des propos modérés et apaisants sans pour autant dire oui, faites ce que vous voulez. Effectivement, nous, on a 7 enfants. Papy et mamie, comme dirait Jérôme
Salomon. 7 enfants, vous avez ?
Ouais.
Ah oui.
Et un bon sèche-linge. Écoutez, ça a sauvé ma vie. On a 7 enfants, on a 53 ans. Donc, quand Jérôme Salomon dit papy et mamie dans la cuisine, c'est nous, papy et mamie. On a des adultes autour de nous, dans nos enfants. Ils sont mariés, ils ont des enfants. Qu'est-ce que vous voulez ? On travaille tous. Pourquoi ne pas se retrouver à Noël alors que on n'est pas en télétravail pour la plupart d'entre nous, on va à droite et à gauche pour le travail. C'est un peu incompréhensible pour nous. On a encore des enfants jeunes à la maison. Les deux derniers ont 16 et 12 ans. Bon, le grand, il a 28 ans, vous voyez, donc il y a un petit panel d'âge.
Ben oui, on va les retrouver à la maison. La maison l'aurait ouverte à ce moment-là, mais on n'a pas l'impression. J'ai une fille infirmière aux urgences, donc qui vient avec son mari, qui me dit, écoute, raisonnablement, personne d'entre nous n'est une population à risque. Personne. Elle a fait. On l'a pas vu pendant le premier confinement. On a fait super attention et ils étaient. C'était difficile ce qui se vivait aux urgences. Voilà. J'ai pas l'impression, et j'aimerais que votre invité peut-être me tape sur les doigts, mais qu'on prenne un risque inconsidéré. Voilà.
Monsieur Annan.
D'abord, on prend toujours un risque. Et effectivement,
oui,
la question est de savoir si le risque est inconsidéré.
C'est un gros risque.
Oui, non, la question est de savoir est-ce que le risque est inconsidéré ou considéré.
Voilà.
Autrement dit, est-ce qu'on est éclairé du risque que l'on prend ? Est-ce que ce risque est réfléchi ? Et est-ce qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut pour l'amoindrir, pour le rendre le plus faible possible, ce risque? Et c'est clairement possible, je pense, mais les meilleures personnes pour apprécier sont bien, en l'occurrence vous-même et votre famille. Et personne mieux que vous ne connaît votre situation personnelle et votre capacité ou pas, pendant cet événement-là, à respecter les gestes barrières le mieux possible. Parce que quel que soit l'âge ou quels que soient les facteurs de fragilité qu'on peut avoir, même si on n'en a pas, on n'est pas à 0% de risque de contracter la maladie, et y compris de faire une forme sévère. Donc ça, il faut l'avoir quelque part au fond de son esprit, ne jamais l'oublier, pour ne pas baisser la garde. Et c'est ça le plus important. Et après, dès lors que l'on est tous ensemble à passer un moment agréable, ça nous donne de la respiration dans notre vie de tous les jours. C'est une très bonne chose pour nous aider à continuer de lutter contre l'épidémie. Encore une fois, tant que le risque est considéré, il est réfléchi, il est éclairé, et bien pour moi, il n'y a pas de problème.
Catherine, vous êtes jeune, vous avez 53 ans, mais vos parents seront là ?
Mais non, eux, ils sont... Enfin, j'ai plus mes parents, voilà.
Oui, donc il n'y aura pas
non,
de...
Non, c'est nous.
Les plus âgés, ça sera vous. Mais vous n'avez que 53 ans, ce qui quand même... ce qui vous place... Non, mais ce qui ne vous place pas statistiquement dans une situation de risque inconsidéré, pour reprendre le terme de M. Annan. Bon, ça fait quand même beaucoup bien, autour de la table. Après, moi, je suis un peu comme M. Annan, je déteste donner des leçons à quiconque. Moi, j'aime bien la formule de M. Annan, personne ne sait mieux que vous ce que vous devez faire dans votre famille. Donc, cette formule, effectivement, on pourrait la ressortir. Merci, Catherine.
Merci.
Et puis, tenez-nous au courant, surtout, Sonia est là. Bonjour, Sonia.
Bonne journée.
Sonia, vous êtes toujours là ? Sonia, elle est repartie, mais Christian
non,
va être...
Non, je n'ai pas reparti.
Donc vous entendiez, par exemple, vous voyez, Sonia, c'est intéressant, parce que vous étiez sur un thème, on reste à deux, et puis là, Catherine, c'est effectivement...
Oui, après, si je puis me permettre, Catherine, elle accueille ses enfants.
Oui.
Voilà. Et elle a, comme vous disiez, 53 ans,
oui.
Elle n'est pas à risque, même si sa fille travaille dans le milieu hospitalier, voilà. Après... Moi, c'est mon angoisse. Donc, je vais pas vivre une angoisse le 24. Et comme une psychologue disait, il faut absolument que ce soit le 24 décembre. Mais pourquoi on fait pas ça le 24 mars?
Mais vous avez raison, Sonia, et j'adore une nouvelle fois la formule de M. Annan. Personne ne sait mieux que vous. Et on a deux cas de figure. Vous vivriez mal un 24 décembre, donc ne le faites pas. Et puis au contraire, Catherine le vivra peut-être mieux, en prenant plus de précautions, elle le vivra sans doute mieux. Et chacun, de ce point de vue-là, a raison pour lui-même. Christian, qui sera notre dernier auditeur, il nous reste une minute. Christian, bonjour.
Oui, bonjour RTL.
Bonjour Christian, vous avez une minute.
Oui, une minute. Bah, écoutez, moi, je suis un peu comme tout le monde. On va faire un réveillon un petit peu réduit. Donc, 4 adultes et puis nos petits-enfants. Voilà.
Donc, vous allez respecter la jauge.
Ah, je vais respecter la jauge. Bon, après, il faut que le bon sens s'emporte, quoi. Voilà. On va respecter au maximum les barrières et tout. Se laver les mains au maximum, tout ça. Et puis, comme on fait habituellement, d'ailleurs. Des gestes qu'on avait un peu perdu l'habitude de prendre.
Bon, écoutez, on vous souhaite un joyeux Noël en avance. Monsieur Annan, vous allez faire quoi le 24 décembre? Vous travaillerez, par exemple, à Garches?
Je vais travailler, non pas le 24, enfin le 24 dans la journée, oui, mais pas dans la nuit. Je travaillerai le lendemain, donc de toute façon, ce sera en famille. On va dire qu'on sera peut-être un peu plus de 6. J'ai pas véritablement fait le compte, mais ce qui est certain, c'est qu'on va, on sera très vigilant et on fera en sorte de réduire le plus possible les risques et de respecter au mieux les gestes barrières, tout en profitant le plus possible de ce moment important.
Je me demande si le gouvernement ne devrait pas prendre des leçons de communication de temps en temps auprès de vous, monsieur Annan, puisque vous dites les choses d'ailleurs avec clarté, avec lucidité, avec précision et parfois avec dureté, mais vous les dites comme on aime les entendre, et ça change tout.
Je vous remercie.
14h26, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.